Chapitre 11. À peu près au moment où Hilda faisait retomber la dalle fermant les souterrains, un coup de heurtoir sur la porte réveillait les habitants de Kerhaven. Ils ne s'en émurent pas trop, car il était arrivé deux ou trois fois que des compatriotes, pour une raison ou pour une autre, avaient demandé l'hospitalité de la vieille maison. Néanmoins, par prudence, ils se levèrent tous et passèrent quelques vêtements, tandis que Léonard, habillé à la hâte, s'en allait vers la porte où l'on frappait de nouveau. Il demanda « Qui est là ?» Une voix répondit en allemand « Je viens de la part de M. Mulbach pour une communication urgente. Il faut que je parle sans tarder au commandant Elmer. » Léonard enleva les barres de la porte et ouvrit celle-ci. Un revolver fut braqué sur lui. La même voix dit, impérativement « Si vous bougez, si vous criez, je tire. » Léonard, stupéfait, avait devant lui l'officier français dont il avait si bien attaché les membres et auquel il allait porter sa nourriture, dans la petite chambre souterraine. En même temps, d'autres silhouettes surgissaient derrière M. de Pinvalas. Les fusiliers étendus sur le sol se redressaient, bondissaient dans le vestibule, dont Alain, en s'écartant un peu, leur livrait le passage. L'un d'eux s'empara du domestique, et, le canon du fusil contre son visage, l'entraîna dehors, tandis que ses compagnons s'élançaient vers les chambres, ayant à leur tête Alain et l'amiral de Barcueil, qui, en dépit de sa blessure, avait voulu accompagner son jeune parent. Elmer fut cueilli avant d'avoir pu opposer de la résistance. Mais la porte de Spitzfahrer et celle du baron étaient fermées à clé. L'ingénieur, entendant ce bruit insolite dans le vestibule, s'était aussitôt douté de ce qui advenait. Il se précipita dans la chambre de Reichensfeld, qui communiquait avec la sienne. Le baron, debout très pâle, achevait de passer un veston. Spitzfahrer dit d'une voix étouffée « Je crois que cette fois nous sommes pris. » Friedrich eut une sorte de rugissement. « Pas encore. Il faut essayer de leur échapper, de gagner les souterrains. Vite, aidez-moi. Prenez ce portefeuille-là. Bien. Impossible d'aller prévenir Hilda, de l'emmener avec nous. Sa chambre est de l'autre côté du vestibule. Mais si nous nous en tirons, nous verrons à lui être utile d'autre manière. » Tout en parlant, il allait vers une petite porte qui donnait accès dans la chambre d'Even. Et quelques minutes plus tard, les deux Prussiens se trouvaient à l'abri, momentanément du moins, dans les souterrains. Ce fut donc vainement qu'Alain et ses hommes, après avoir arrêté la servante et les deux ouvriers qu'occupaient les Allemands, cherchèrent Hilda, l'ingénieur et Reichensfeld. Tous trois avaient eu le temps de fuir. Vraisemblablement, ils n'avaient pu chercher refuge que dans les galeries souterraines. Or, il faudrait attendre pour les en déloger que l'on pût y descendre en force. Car il n'y avait pas même à compter sur la faim pour en avoir raison, disait Alain à son cousin. Tandis qu'un peu après, ayant laissé les hommes de garde dans la chambre d'Even, ils revenaient avec les autres qui encadraient les prisonniers. Ils ont des provisions pour longtemps, probablement, là-dessous. Oui, c'est possible. Et des armes aussi. Notre expédition n'a pas réussi comme il aurait fallu. Mais aussi, est-ce truqué, cette maudite bicoque? Enfin, le principal, c'est que tu sois sauvé, mon cher enfant. Florita, l'aïeul et Armel furent aussi de cet avis. Mais Alain, secrètement, restait soucieux. La présence de ses ennemis dans les souterrains l'inquiétait beaucoup, étant donné que ce mystérieux sous-sol s'étendait jusqu'à Runesto. Hilda et Reichensfeld, quand ils étaient venus le voir dans sa prison, avaient eu soin de lui annoncer avec une cynique cruauté qu'il comptait faire sauter le château et ses habitants, un jour ou l'autre, à l'aide des puissants explosifs dont Elmer et Spitzfahrer avaient tout un approvisionnement. Et ils savaient trop que, s'il leur était possible d'accomplir ce nouveau forfait, les misérables n'hésiteraient pas un instant. Quelle que fût son anxiété, il put la dissimuler à ceux qui l'entouraient, afin de ne pas gâter leur bonheur de le revoir. Et quand il fut un peu remis de sa fatigue, il leur raconta sa courte captivité que ses ennemis avaient su faire si dur. On ne lui déliait le bras que pour les repas, ceci plus que frugaux. Il restait seul dans l'obscurité, ou du moins avec l'unique compagnie du Danois. Celui-ci, de temps à autre, venait le flairer. À ce moment-là, le prisonnier frissonnait. Puis des rats, parfois, s'aventuraient jusqu'à lui, se promenaient sur son corps et son visage. Heureusement, le chien n'aimait pas cette jante répugnante, et dès qu'il remuait en grognant, celle-ci s'éclipsait pour quelque temps. Enfin, tout cela sera vite oublié, conclut-il. Mais je voudrais voir ton Kerhaven, Flori, aussi bien débarrassé en dessous qu'en dessus de tous ces bandits. Deux jours passèrent. Les fusiliers de garde à Kerhéven, sous les ordres de l'enseigne, ne voyaient ni n'entendaient rien d'anormal. L'amiral, qui était allé faire son rapport à Brest, revint en déclarant que l'amiral X avait, lui aussi, reconnu la nécessité d'une descente et d'une recherche dans les souterrains. Nous avancerons avec toutes les précautions possibles, au cas où ces brigands nous auraient tendu quelque embuscade. Mais il faut les déloger de là absolument. Cet avis s'accordait avec celui d'Alain. La présence des trois Allemands là-dessous représentait un danger plus grand que celui qu'on courait en allant les pourchasser dans leurs repères. Il fut donc convenu que, le lendemain matin, une expédition serait faite dans les souterrains de Kerhéven, sous les ordres du capitaine de Pinvalas. Or, à ce même moment, dans d'étroits et sombres couloirs, une femme marchait demi-folle, cherchant une issue et retombant toujours sur les mêmes galeries. Even ou quelqu'un de ses aïeux avait dû imaginer ce supplice du dédale où l'on erre sans fin, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. C'était cela que subissait Hilda depuis 2 jours. Parfois elle tombait sur le sol n'en pouvant plus, murmurant « C'est fini, mieux vaut mourir là ». Mais au bout d'un moment elle repartait, se traînant, voulant espérer encore qu'une voie libératrice allait s'ouvrir devant elle. Et c'était toujours le petit couloir sournois, tortueux, qui s'embranchait à un autre tout pareil, ramenant indéfiniment l'Allemande au même point. Les jambes brisées, le corps glacé, elle frissonnait de fièvre et de froid. Les coups lui martelaient les tempes, ses yeux voyaient troubles, dans cette obscurité où sa petite lampe jetait une faible lueur. Elle répétait « Ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible, je dois sortir de là ». Le désespoir, la terreur l'étreignaient. Elle voyait nettement ce qui l'attendait. La terrible mort par la faim dans ces ténèbres glacées. La mort par la faim que Reichensfeld et elle avaient décidé d'infliger à Alain de Pinvalas, mais progressivement, pour faire plus longue sa torture morale. Aucun remords pourtant ne pénétrait dans cette âme endurcie. Non, elle ne regrettait rien de ce qu'elle avait fait. Elle ne voyait rien en dehors de l'horreur d'une telle fin, et de cette idée que jeune, belle, ayant encore la promesse d'un brillant avenir, elle allait périr là. Bien mieux, les sentiments de haine s'agitaient en son cœur, et elle maudissait Florita comme l'auteur de son malheur. Car, pensait-elle, sans elle, Alain m'aurait peut-être aimée. Je serais maintenant sa femme, et je ne connaîtrais pas aujourd'hui cet épouvantable sort. Dans une autre partie des souterrains, 2 hommes cherchaient un moyen pour quitter ce refuge où ils risquaient d'être découverts un jour ou l'autre. Fuyant les Français, Reichensfeld et Spitzwarer étaient d'abord allés directement à l'endroit où ils croyaient trouver l'équipage du sous-marin. Mais là, plus personne. Et une flaque de sang coagulée sur le sol, dans la chambre des officiers, un revolver déchargé à terre, le désordre régnant partout, dénotait qu'une lutte avait eu lieu. Les 2 Allemands devinèrent aussitôt la vérité. Par l'entrée donnant sur Runesto, les Français avaient pénétré dans les souterrains, surpris l'équipage, délivré Alain de Pinvalas. Et maintenant, il y avait tout à penser qu'ils reviendraient pour chercher les fugitifs. Ceux-ci, étant donné leur connaissance des lieux, pourraient peut-être leur échapper un certain temps. Ils arriveraient même sans doute, en s'embusquant ici ou là, à en tuer quelques-uns. Mais les autres finiraient indubitablement par avoir raison d'eux. C'était là ce que se répétait Spitzfahrer, assis avec Reichensfeld à un petit carrefour de galeries, pour être prêts à s'enfoncer dans l'une de celles-ci au moindre bruit suspect. L'ingénieur ajouta « Ah, si j'avais seulement quelques hommes capables de manœuvrer ce sous-marin, nous aurions là un bon moyen de fuite. » Reichensfeld eut un mouvement d'épaule. « En admettant que nous ayons pu arriver à la grotte sans être découverts, car rien ne nous dit que les Français ne nous guettent pas par là. Évidemment, pourtant il faudra bien que nous essayions de sortir d'ici. » L'ingénieur semblait fort abattu. Ces 2 jours passés là dans l'attente de la venue probable des Français avaient eu sur son moral une mauvaise influence. Quant à Reichensfeld, les poings crispés, l'œil luisant de fureur, il murmurait de temps à autre « Dire que ce sont eux qui triomphent, dire que ce sont eux !» Vers 7 heures, l'ingénieur se leva et prépara le repas avec des conserves dont il y avait un stock considérable. Il était allé chercher le fourneau électrique dont se servaient les différents équipages des sous-marins qui avaient séjourné ici et l'avait installé en cet endroit où, pour le moment, il se tenait avec son compagnon et le second Danois qui, couchant dans sa chambre, l'avait suivi dans sa descente au souterrain. Reichensfeld mangea du bout des lèvres. Il souffrait beaucoup de son membre amputé, dont la cicatrisation n'était pas complète, quand il avait exigé qu'on y adaptât une jambe de bois pour venir ici pour suivre sa vengeance. Mais surtout la fureur de voir tous ses plans déjoués, l'angoisse de savoir comment cette aventure allait finir, l'agitait, le dominait, en tendant ses nerfs, qui lui semblaient par moments prêts à éclater. Le repas terminé, les deux hommes s'étendirent sur un matelas que Spitzfahrer avait rapporté du logement des officiers. Mais le sommeil ne venait pas. Et tout à coup, Reichensfeld eut un brusque mouvement, puis se souleva sur le coude. « Spitzfahrer, écoutez, j'ai une idée. Pour nous échapper d'ici ?»« Non, quoique peut-être, à la faveur du bouleversement, nous puissions tenter avec succès de sortir par Kerevan. Mais mon idée a trait tout d'abord à la disparition de ces Pinvalas maudits et de leur demeure. La disparition? Comment? N'avez-vous pas une grande quantité d'explosifs ici? Oui, de très puissants. Vous songeriez à faire sauter? Runesto, oui. Mais nous sommes loin de la partie des souterrains qui se trouve sous le château. Il faudrait y transporter les explosifs. Est-ce possible? Impossible, non, mais difficile et dangereux. Pourrions-nous le faire à nous deux? Oui, en y mettant le temps et en usant de beaucoup de précautions. Eh bien alors allons-y. Je ne veux pas que ces gens-là triomphent, Spitzfahrer. Nous allons leur préparer une danse soignée. Vous saurez amorcer la chose pour qu'elle n'éclate que lorsque nous serons à distance respectable. Oh, cela oui, je m'en charge. Mais il s'agit de voir si nous pourrons porter ces caisses à nous deux. Reichensfeld étendit les bras et fit saillir ses muscles. Je suis fort, et vous aussi. Nous en viendrons à bout. Et, comme vous dites, nous y mettrons le temps. Mais si les Français se trouvent par là, nous ferons auparavant une reconnaissance en nous faisant précéder par le chien qui nous donnera l'éveil. Soit, faut-il nous y mettre maintenant? Mais oui, nous sommes trop agités pour dormir. Ainsi donc, mieux vaut nous occuper aussitôt de cette affaire. Ils se levèrent et se dirigèrent vers la partie des souterrains où se trouvaient les explosifs. Spitzfahrer avait eu soin de les faire placer assez loin de Kerevan, c'est-à-dire sous la partie la plus large du long promontoire et à l'endroit où celui-ci se rattachait à la côte. Ils avaient été emmagasinés là peu avant la guerre, dans un but dont l'autorité navale n'avait pas instruit Elmer et Spitzfahrer, mais que ceux-ci soupçonnaient être la destruction d'une partie des côtes pour terroriser la population. Jusqu'ici, on ne les avait pas utilisés. Spitzfahrer exerçait là une surveillance rigoureuse. À l'entrée de la chambre rocheuse où ils étaient enfermés, il avait fait placer une pancarte avec ces mots « Interdiction formelle, sous les peines les plus sévères, d'entrer ici ». En outre, l'ingénieur avait établi un courant électrique, et le curieux qui aurait voulu enfreindre la défense aurait été rejeté en arrière, dans un fort piteux état. Spitzfahrer s'arrêta là un moment, les yeux fixés sur les caisses. Puis il dit sourdement « Ah, si je le pouvais sans danger pour nous, comme je détruirais tout cela, tout ce qui représente notre patient travail de tant d'années, pour qu'au moins ces Français n'aient pas la joie de s'en emparer. » « Oui, je pense comme vous, mais c'est impossible, car nous en serions les premières victimes, tandis qu'en faisant sauter Runesto et ses alentours, nous ne courons pas de risque. » « Eh bien, à l'œuvre donc, mais doucement, surtout pour le maniement de ces caisses. » Les deux adversaires d'hier, les deux rivaux pris au piège de la beauté et des coquetteries d'Hilda, se retrouvaient unis pour l'œuvre de vengeance comme pour la sauvegarde de leur existence. Quant à la jeune femme qu'ils avaient courtisée et qu'ils croyaient prisonnière, ils ne lui donnaient guère qu'une pensée vague, de temps à autre, depuis ces deux jours. Toutes leurs facultés se tendaient vers ce seul but, sortir d'ici, en échappant aux Français. Et maintenant, ils en avaient un second. Détruire cette vieille demeure, patrimoine d'une ancienne famille de France, et donner la mort à cette famille elle-même. Une telle perspective mettait une lueur de joie infernale dans l'œil du baron prussien, et agitait d'une sorte de fièvre tout son être. Après un rapide examen, Spitzfahrer désigna une des caisses en disant « Emportons d'abord celle-ci, elle est une des moins lourdes, je crois ». Sans trop de difficulté, les deux hommes l'enlevèrent et se dirigèrent vers le couloir. À ce moment, le chien se faufila entre eux pour passer. La jambe de bois du baron, heurtée par sa croupe, glissa un peu sur le sol inégal où affleurait le granit. Reichensfeld ne put se retenir. laissa échapper la caisse, et une formidable explosion se fit entendre, tandis que tout s'écroulait, tout se pulvérisait autour des deux Allemands, dont les corps n'étaient plus que des bris informes. Dans le couloir sombre, où vaincue par l'épuisement elle était tombée sur le sol humide, Hilda fut secouée, roulée pendant quelques secondes. Tout craquait autour d'elle. Pourtant la galerie ne croulait pas encore. La jeune femme essaya de se soulever. Sa petite lampe électrique avait disparu. Les ténèbres remplissaient le couloir. Hilda rampa un instant sur les genoux, sur les mains. La terreur l'étreignait, jetait en tout son corps de longs frissons. Et tout à coup il se produisit un grondement sourd. Toute cette petite partie des galeries que n'avait pas détruite l'explosion, la mère se précipitait avec une sorte de rage, comme triomphante, de voir disparaître enfin l'obstacle contre lequel sa fureur s'était brisée depuis des siècles. Le flot impétueux envahit le couloir, saisit le corps de Hilda, l'emporta, le jeta contre le roc de la galerie. Quelques secondes plus tard, la belle comtesse aux cheveux bleus avait cessé de vivre, et sa sombre chevelure dénouée devenait le jouet de la mer qui emportait sa victime vers les abîmes marins dont était entourée Kerhéven.